Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Maître Dominique Amandou, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jody.
Alors nous parlons aujourd'hui de l'abus de confiance, surtout dans les domaines du bail. Qu'est-ce qu'on entend par abus de confiance ?
Merci beaucoup Jody. Nous précisons d'abord que l'abus de confiance est une infraction prévue par le code pénal congolais en son livre 2. On parle d'abus de confiance lorsque il y a à la base un contrat et qu'une personne a reçu des sommes d'argent ou des biens en vue d'en faire une destination bien précise ou en vue d'en faire un usage bien précis. Lorsque la personne qui reçoit ces sommes d'argent ou ces biens les destine à une autre destination avec intention de nuire à l'autre partie ou en fait un usage personnel ou en fait un autre usage que celui précisé à l'avance, on parle d'abus de confiance. Et en matière de bail, ce que l'on rencontre souvent, c'est que il y a des cas où les bailleurs demandent, sur base du contrat de bail, une garantie locative et parfois exagérée, dans le but de pouvoir réaménager la maison,
alors
ou pouvoir faire certains
selon
travaux.
Selon la loi, c'est 3 mois des garanties.
Effectivement.
Certains vont jusqu'à 10 mois.
Vont jusqu'à 10 mois, voire même 12 mois.
Oui.
Et le rôle de la garantie locative n'est pas de pouvoir faire des travaux ou de pouvoir réhabiliter la maison donnée en location. Mmh. Et ce qu'on constate le plus souvent, c'est que les bailleurs, sachant qu'ils ne vont pas faire les travaux, ayant besoin d'argent pour d'autres fins, exige ces sommes, et au lieu même de faire les travaux pour lesquels l'argent a été destiné, ils en font autre chose. Donc, sur base du contrat, ils perçoivent de l'argent et en font autre chose. Ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est un abus de confiance. D'autres cas peuvent s'apparenter, par exemple, à l'escroquerie. C'est-à-dire qu'un bailleur qui prend une garantie locative de plusieurs personnes à la fois et n'offre jamais la maison ou ne livre jamais les biens loués. Ou alors, il prend la maison sachant qu'il prend l'argent, sachant que cette maison-là ne sera jamais disponible, n'ayant pas envie de faire louer la maison seulement parce que il veut se servir de cet argent pour autre chose et dire bon, je vais m'arranger pour rembourser ou pour rouler les gares. Là, on peut même parler de l'escroquerie.
Donc, on peut même parler de l'escroquerie.
Effectivement.
Et on remarque généralement à Kinshasa, par exemple, vous voulez quitter une maison, le bailleur vous dit, bon, vous allez consommer votre garantie, donc vous restez là jusqu'à l'épuisement total de la garantie. Mais c'est quoi le rôle d'une garantie?
La garantie locative est une somme d'argent remise par les locataires au bailleur. Ça peut s'appeler aussi une caution. Le rôle de la garantie locative, c'est pour garantir la bonne exécution des obligations contractuelles. C'est pour garantir que le locataire va payer ses loyers correctement et va user de la maison en bon père de famille, donc garantir une bonne exécution du contrat. Si le locataire manque à ses obligations contractuelles et que ces manquements engendrent des pertes ou des dépenses supplémentaires pour les bailleurs peuvent alors rentrer dans ses droits en retenant sur la garantie locative. Le rôle de la garantie locative n'est pas de couvrir les loyers impayés. Bon, c'est peut-être en fin de contrat, on peut arriver à ce que les loyers non payés puissent être retenu sur la garantie locative. Et c'est ça même le rôle de la garantie locative. Mmh. Mais ce n'est pas pour que les bailleurs puissent imposer au locataire qui dit « Bon, je te donne un préavis, consomme ta garantie locative. » Ce n'est pas à cela que sert une garantie locative.
Alors, maître, mettons-nous devant un cas de figure. Je vais chercher une maison quelque part. Le bailleur me dit « Voilà, vous pouvez déjà verser la garantie parce que la personne qui est là va libérer très bientôt. » Voilà, je vais voir la personne, elle me rassure, voilà, je vais partir dans, par exemple, 1 mois, et je paye ma garantie, tous les papiers, voilà, tout est signé, tout est beau. Je reviens 1 mois après, le monsieur qui dit non, il va pas sortir. Et puis, le bailleur me dit de revenir 2, 3, 4, 5 mois, ainsi de suite. Et alors, devant une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre?
En principe, devant une telle situation, il n'y a pas infraction parce qu'il n'y a pas au départ un fait infractionnel prévu par la loi et posée avec intention de nuire. Dans le cas d'espèce, il y a manquement au respect des obligations du contrat, parce que par le fait de verser la garantie locative et de signer un contrat, le bailleur est lié. Il est tenu d'exécuter les termes du contrat tel que convenu et à l'échéance convenue. Mmh. Si cela n'est pas fait et que les délais commencent à se prolonger indéfiniment, le locataire peut renoncer au contrat, c'est-à-dire demander la révocation du contrat ou la résiliation du contrat et demander au bailleur la restitution de la garantie locative et au besoin même des dommages et intérêts pour les préjudices qu'il aurait subis.
Et si d'abord le bailleur n'est pas en mesure de restituer cet argent? Maître Dominique, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Non, mais c'est son droit. Si le bailleur n'est pas en mesure de restituer cet argent, il peut faire saisir ses biens pour se faire payer. Si le bailleur n'arrive toujours pas à livrer les biens loués comme convenu.
Donc il peut...
Il peut saisir la justice, demander une saisie conservatoire, et après poursuivre la procédure pour que ses biens soient vendus et qu'il puisse récupérer son argent au besoin avec des dommages et intérêts.
Et qui va déterminer ces dommages-là? C'est de quel pourcentage? Qui va déterminer tout ça?
Les dommages et intérêts, c'est la partie, le locataire préjudicié qui détermine en fonction du préjudice qu'il a subi, mais le juge va apprécier, voir les circonstances des temps, des lieux, le contexte, et évaluer les préjudices par rapport aux demandes formulées par les locataires.
Mais pour de tels cas, ne faut-il pas commencer par la commune, voire les proposer à les chargés de les services qui gèrent généralement peut-être l'urbanisme et l'habitat, les services qui gèrent les maisons pour se plaindre devant une telle situation, au lieu d'aller directement au tribunal?
Ça dépend.
Faut-il commencer par la commune ou pas?
La procédure, le code de procédure civile ou pénale, selon les cas, n'est pas de l'étape de la commune, mais il y a des textes administratifs, des textes réglementaires qui demandent que le contrat soit visé par les services de la commune et que l'exécution soit suivie. On peut saisir les services de la commune qui peuvent tenter un arrangement et trouver une solution à ces niveaux-là. Mmh. Mais si il n'y a pas de solution, la voie ultime, c'est la justice.
Il faut aller voir un juge de paix.
Pour les affaires ayant trait au contrat des bails, de cas de garantie, c'est souvent des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Ça dépasse la compétence matérielle des tribunaux de paix. Mais lorsqu'il y a des faits infractionnels comme l'abus de confiance, les escroqueries qui sont punies d'une peine qui ne peut pas dépasser 5 ans de prison, là, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux de paix.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Vous avez des questions, des réactions, composez le 081 890 63 94 ou écrivez-nous à service@radiokapi.net. Alors, vous avez versé votre argent, le bailleur vous fait marcher, ou soit, maître, il arrive que la personne qui était dans la maison a accepté, je vais sortir, mais après ça, la personne change d'avis et dit, bon, je ne veux plus sortir.
Non, mais le contrat est signé entre le futur locataire et le bailleur. Oui. C'est le bailleur qui doit garantir au futur locataire la livraison de la maison à l'échéance convenue. Cela ne concerne pas le locataire qui est dans la maison. Les gens préfèrent toujours parler avec les locataires qui est dans la maison pour être sûr que les déclarations du locataire, de la personne qui occupe la maison, sont conformes à celle du bailleur. C'est aussi une bonne chose, c'est pas prudent. Oui. Mais les conflits qu'il y a, ou en cas de contentieux, cela ne concerne pas les locataires qui occupent la maison, cela concerne les bailleurs et son futur locataire qui lui a versé une garantie locative et avec qui il a signé un contrat. C'est au bailleur de prendre les dispositions avec l'occupant de la maison pour que cette dernière de la maison soit libérée en temps utile.
Et pour les cas des bailleurs qui sont des escrocs, qui perçoivent l'argent de 2, 3, 4, 5, voire même 10 personnes, voilà. 10 garanties à la fois. Et pour de tels cas, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Là, il s'agit purement et simplement de l'escroquerie. Les personnes qui sont victimes peuvent saisir, se plaindre au parquet par voie de plainte, se plaindre au parquet. Le parquet va instruire et faire citer, faire fixer l'affaire au tribunal, ou au cas où la partie victime a toutes les preuves, peut aller par voie de citation directe au tribunal de paix de la résidence du bailleur.
Et souvent, les commissionnaires aussi sont accusés d'être complices dans ce genre de situations. Je ne sais pas si on laisse le terme approprié, commissionnaires, ou c'est comme ça qu'on les appelle communément.
Effectivement.
Ils seront également sanctionnés.
Mais lorsque les commissionnaires avaient connaissance que les bailleurs a déjà perçu l'argent d'une autre personne, ou est au courant que ce bailleur est en train d'escroquer et qu'il facilite le contact entre un locataire potentiel et ce bailleur, les commissionnaires sont complices, ils peuvent aussi être poursuivis et condamnés.
Il peut être poursuivi et condamné.
Vous avez... pour complicité.
Oui, pour complicité. Vous avez des questions, des réactions? Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Blanchard nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour.
On vous écoute Blanchard.
Oui, j'ai une question de savoir, est-ce que le droit congolais reconnaît à quoi? Les actes de vente, de reconnaissance, ou encore les actes, les décharges et d'autres documents là comme documents juridiques en droit congolais?
Oui, soyez précis. C'est dans le cadre du bail, vous allez voir votre bailleur et puis vous délivre une décharge, c'est ça? Après avoir perçu l'argent?
Oui, c'est ça. Ces documents-là qu'on conclut avec le bailleur et son locataire. Est-ce que les droits congolais reconnaissent ces actes-là comme un document juridique qui peut prouver que le bailleur avait reçu l'argent? En cas d'abus de confiance.
Maître Dominique.
Merci Blanchard. Les décharges ou actes compromis, quelle que soit l'appellation, tient lieu des preuves. C'est une preuve littérale, c'est une preuve matérielle qui démontre que telle personne a reçu l'argent de tel autre pour tel objet. Ce sont des documents qui sont reconnus comme preuves et qui peuvent permettre au locataire de pouvoir asseoir son accusation. Cela est valable. Bien sûr qu'en matière de bail, la loi exige que c'est mieux qu'il y ait un contrat. Mais le contrat peut parfois être verbal, mais ces actes qui sont signés pour percevoir et remettre l'argent sont des preuves qui matérialisent même l'existence du contrat.
Voilà, ce sont des preuves qui matérialisent l'existence d'un contrat. Alors, la décharge, à quel moment faut-il signer le contrat? Vous versez l'argent, on vous délivre, et le bailleur fait une décharge, mais à quel moment propice il faut exiger le contrat?
En principe, dès qu'il y a accord entre le bailleur et les locataires de pouvoir donner la maison en location et de pouvoir verser l'argent, c'est à ce moment-là qu'on verse, qu'on doit signer en principe le contrat. En principe, le contrat doit être signé au moment où on se met d'accord et au moment où on verse de l'argent. C'est le moment idéal pour signer le contrat. Il ne faut pas verser l'argent et attendre de signer le contrat après, parce que c'est sur base du contrat que l'argent est versé, de l'accord convenu.
Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des contrats, un contrat verbal?
Le contrat peut être verbal. La difficulté du contrat verbal, c'est que quand on a affaire à un partenaire de mauvaise foi, on a du mal à le prouver. C'est pour cela qu'on exige toujours l'écrit. Mais lorsque le contrat, même s'il est verbal et qu'il est suivi, par exemple, d'actes de reconnaissance ou d'une décharge pour préciser qu'on a perçu l'argent pour tel objet, le contrat, même verbal, est valable. Mais la loi exige qu'il y ait un écrit pour plus de preuves.
Maître, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut, lorsque le contrat est signé, il faut aller à la commune, au service de l'habitat, pour la reconnaissance, mais généralement, les gens ne suivent pas cette procédure.
Oui, il y a un arrêté du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui exige que tous les contrats de location soient visés par les services de l'habitat, de l'urbanisme et habitat dans les communes. C'est pour pouvoir permettre aux services administratifs de pouvoir vérifier si ce contrat est conforme à la loi. Et c'est une exigence légale, mais parfois les gens ne suivent pas. Et aussi, la difficulté, c'est que les gens ne suivent pas parce que les services des communes abusent et les plus souvent exigent trop d'argent pour pouvoir viser un contrat. Et alors les gens disent, j'ai déjà payé les commissionnaires, je dois encore aller payer à la commune. Oui. Et les bailleurs qui reçoivent, par exemple, un loyer anticipatif ou une garantie, une garantie locative, et que la garantie locative est à rembourser en fin du bail.
Et on signale qu'il faut payer 30% pour aviser.
Donc ça, c'est vraiment un abus. Montant, il faut payer 30% juste pour les visas d'un contrat de location. Et c'est pour cela que les gens évitent d'aller par là.
Voilà, les gens évitent d'aller par là. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-63-94. Mais souvent, souvent aussi, les bailleurs n'aiment pas que les gens aillent à la commune. Vous avez peut-être l'intention d'aller à la commune, mais les bailleurs vous disent non, réglons ça à l'amiable, c'est entre nous, pourquoi aller à la commune?
Effectivement, les bailleurs ne veulent pas aller à la commune parce qu'ils savent qu'à la commune, on va leur demander de payer des frais. Parfois, pour certains litiges, on exige de payer l'équivalent d'un mois de loyer. Et les bailleurs se trouvent là en difficulté de pouvoir payer et évitent d'aller à la commune. Le passage à la commune, comme je l'ai dit, est exigé par un arrêté du ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est pour permettre aux services concernés de pouvoir vérifier les contenus du contrat et pouvoir veiller à assurer la bonne exécution de ce contrat. Oui. Mais si, entre parties, les choses se passent normalement, de bonne foi, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est comme c'est une exigence réglementaire, je pense que les gens sont tenus de s'y soumettre.
Alors, mettons dans un cas, j'ai versé l'argent, la garantie quelque part, je reviens et le bailleur, il me fait marcher. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher des policiers pour venir le menacer ou l'arrêter?
Bon, s'il n'y a pas commission d'une infraction, il n'a pas usé des violences, il n'a pas insulté, là il y a juste un manquement aux obligations contractuelles, on ne peut pas aller chercher les policiers pour l'arrêter pour ça. On doit aller en justice pour demander la résiliation du contrat, le remboursement ou la restitution de la garantie locative et les dommages et intérêts pour les préjudices subis. Mais comme je le disais tout à l'heure, s'il s'avère qu'il s'agit des cas d'abus de confiance tels qu'on l'a expliqué ou d'escroquerie, là on peut aller se plaindre à la police ou au parquet.
Et là, les policiers peuvent l'arrêter et l'amener manu militari
pas l'amener manu militari, on doit d'abord lui envoyer une convocation. Ou si c'est au parquet, un mandat de comparution.
Il faut l'entendre sur PV.
Effectivement, on doit ouvrir un dossier en bonne et due forme, l'entendre sur PV pour pouvoir examiner si les faits lui reprochés ou les infractions sont réellement établis, et c'est alors qu'on peut transférer les dossiers pour la phase des jugements. On ne peut pas, pour une telle affaire, amener des policiers, aller faire enlever quelqu'un, manu militari. Là, ça devient un enlèvement ou une arrestation arbitraire. On doit suivre la procédure, envoyer des convocations ou des mandats de comparution. C'est lorsque, après deux ou trois mandats de comparution, la personne ne répond pas, on peut l'y contraindre avec un mandat d'amener.
Radio Okapi, Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Okapi. Alors, Maître Dominique, si quelqu'un entame des démarches pour louer une maison, est-ce que c'est important de se faire toujours assister d'un avocat?
Bon, la personne est libre, hein, elle peut se faire assister d'un avocat ou pas. Ça dépend aussi de la maison, sa valeur et tout ça. Mais il peut le faire seul si elle peut le faire seule si elle s'estime apte à pouvoir lire un contrat, l'interpréter et bien le comprendre, parce que il y a des cas où on vous propose un contrat et qu'il y a des clauses que vous ne comprenez pas très bien. Après, ça fait objet des discussions dans l'exécution, objet des conflits où, mais tu as déjà signé, tu t'es fait avoir, mais tu n'avais pas vu ça. Oh, moi, je n'avais pas compris ça de cette façon-là. Alors là, pour éviter des pareils désagréments, c'est mieux de se faire conseiller, ou quand tu reçois le contrat à signer, tu l'amènes chez ton avocat. Ce n'est pas nécessaire que l'avocat t'accompagne.
Faut pas signer tout de suite.
Voilà, tu peux amener le contrat chez ton avocat qui te dit non, il est bien, qui peut te dire non, telle disposition n'est pas très avantageuse pour toi et tout ça, et t'éclairer là-dessus.
Mais c'est possible de revoir certaines clauses du contrat avec le bailleur.
Effectivement, la loi, le contrat, c'est la loi des parties. Le contrat n'est valable que du commun accord. Si une des parties contractantes peut demander qu'une disposition soit modifiée, si les parties se mettent d'accord, on la modifie. Si une partie refuse et que l'autre tient à sa position, alors là, dans ces cas-là, soit la partie qui a refusé finit par adhérer au point de vue de l'autre, ou alors il n'y a pas contrat parce qu'il ne peut pas signer s'il ne se met pas d'accord, parce que le contrat, par essence, c'est l'accord des volontés.
Nous avons en ligne Albert qui nous appelle, il est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour maître, bonjour pour le présentateur de toute l'émission. Je présente d'abord mes meilleurs vœux à tous les membres de Radio Capi.
Merci Albert.
Ma préoccupation est la suivante. Combien de fois un bailleur peut augmenter son loyer? Parce que maintenant, ce chantier n'est pas du tout réglementé. Il y a des bailleurs qui augmentent les loyers tous les ans. Est-ce que le bailleur a le droit d'augmenter son loyer tous les ans? Et de quelle proportion?
Lorsque, en principe, les circonstances les justifient, les bailleurs peuvent réajuster les loyers lorsqu'il y a eu des travaux qui ont apporté une plus-value à la maison, lorsqu'il y a eu des termes d'échange ou des fluctuations de la monnaie. C'est là fait que l'on arrive à modifier ou à réajuster les taux des loyers. Combien de fois, la loi ne le dit pas, mais nous pensons que cela ne peut pas être fait de manière fantaisiste et de manière exagérée. La loi reconnaît aux parties la liberté de fixer les conditions de leur contrat en matière de bail. Mais cela aussi pose des problèmes parce que la loi prévoit que les autorités provinciales prennent des actes pour déterminer par catégorie les taux des loyers. Mais cela n'a jamais été fait. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'abus dans ce domaine. En ce qui concerne les réajustements des loyers, la loi laisse l'ouverture aux parties de pouvoir fixer selon leur accord.
Donc ça doit se faire de commun accord avec le locataire.
Oui, c'est-à-dire qu'on propose, c'est un contrat.
Oui.
Le bailleur propose et le locataire donne son point de vue et ils se mettent d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, cela peut amener à la résiliation du contrat, par exemple. Parce que le contrat, par essence, comme je l'ai dit, c'est un accord des volontés.
Voilà, Baudouin est en ligne depuis Colosie. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel Jody Kachama.
On vous écoute, Baudouin.
Oui, je voudrais poser une question à notre invité.
Oui.
Lorsque vous êtes devant un bailleur, et que sa maison est occupée par une autre personne, est-ce qu'on peut donner l'argent tant qu'il y a quelqu'un qui occupe déjà cette maison dans laquelle vous voulez habiter? Et si vous donnez l'argent, vous devez attendre combien de temps pour que l'autre puisse laisser la maison vide?
Merci beaucoup, Baudouin. En donnant l'argent, j'ai précisé que quand on verse la garantie locative, il y a déjà à ce moment-là un contrat, un accord entre les bailleurs et les locataires. Et c'est dans cet accord que les deux parties se mettent d'accord sur la date de la livraison du bien loué. Cela dépend des parties. Les uns peuvent s'entendre dire dans 2 mois, d'autres dans 1 mois, d'autres dans 6 mois. Cela est laissé à la libre volonté des parties. La loi ne donne pas de restrictions quant à ce. Vous pouvez verser l'argent pendant que l'autre, l'ancien occupant, est toujours sur les lieux. Cela ne pose pas de problème. Mais il appartient au bailleur de garantir l'exécution du contrat signé, c'est-à-dire de garantir qu'à l'échéance convenue, la maison sera disponible. S'il ne rend pas la maison disponible à ce moment-là, là, il manque aux obligations contractuelles.
Voilà, merci beaucoup Maître Dominique pour toutes ces informations. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine et à la prochaine.
Merci jeudi et merci à toute l'équipe d'Okapi Service.